Bon midi, Québec. Il est exactement midi. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 pour l'émission On en jase. Avec Jeff Fortin, Pascal CV. Émission sur l'heure du dîner où on parle d'actualité, de politique. On fait le tour des sujets qui vous intéressent. Et Antonine Iaccarini, qui est dans le caucus Iaccarini, me disait « Hey Jeff, faut absolument que je fasse une vidéo pour dire aux gens télécharger l'application. Écoutez-nous via l'application, c'est facile. Il est midi, paf, tu pars ton application et tu vas pouvoir écouter Boulevard 102.1 et le meilleur de l'actualité. » Ben, c'est justement ce que je vous parle à l'instant parce que saviez-vous qu'on a une nouvelle application à Boulevard 102.1? Alors, partout où vous allez, que vous soyez en road trip, au chalet, au travail, en visite chez de la famille ou même dans le sud, restez connectés avec nous. Il y a plein de moyens de nous écouter en direct. Téléchargez l'application gratuite disponible sur Apple et Android pour avoir toujours BLVD à portée de main. Écoutez BLVD aussi sur votre web radio. Et si vous avez un haut-parleur intelligent, dites simplement « Écoutez BLVD 102.1 » avec votre voix de robot. C'est comme ça que ça se dit, hein, une petite voix de robot quand on parle à un haut-parleur intelligent, je pense. Hein? Avec Google Home ou Alexa. C'est simple, vous faites ceci, vous allez pouvoir nous écouter partout. Et pour interagir avec nous, 418-971-1021, le numéro par texto, faites-le. On adore vous lire, en ondes, on adore vous répondre. On est toujours très content de vous savoir là. Pascal CV, t'as passé une belle soirée hier?
Très belle soirée, toi aussi? Oh,
bien sûr, je suis allé m'entraîner. Je suis en feu ces temps-ci.
Ça fait du bien, ça, vois-tu? Ouais. Moi, j'ai fait le contraire, je me suis reposée.
T'as bien
sushi,
fait.
Sushi, petite coupe de vin, parce que je suis sur mes derniers milles, la petite coupe alcoolisée. Puis après ça, un bon gros dodo. Tu sais, une histoire de dodo d'enfant, là, que tu cailles sur ton oreille. Puis j'ai l'impression que notre collaboratrice aussi, ça a été sa soirée hier.
Ouais, mais des gros dodos de bébé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais
depuis que tu as des enfants, c'est
un peu plus tard. Je suis envieuse un peu, mais bon, c'est correct.
Attivant, mais c'est pas une recommandation.
Et non.
Allons-y immédiatement, comme à tous les jours, du lundi au jeudi à midi, avec...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini qui va parler du nouveau caucus des ministres.
Hé là là!
Hé, on va-tu arrêter d'en parler?
Non.
Il l'a-tu étiré, François Legault, la sauce?
Mais là, ça devient intéressant.
Bien, c'est ça. Nous, on trouve ça vraiment intéressant, mais il y a quand même pas mal de monde qui commence à m'écrire pour me dire qu'ils sont tannés d'en entendre parler.
Ouais, ça va-tu aboutir?
Mais, puis on n'a pas le choix, là, nous, d'en parler. Là, c'est trop important, puis il y a tellement de rebondissements. Mais quand les gens commencent à dire, voyons, il me semble que ça fait 2 mois et demi qu'on parle de remaniement, ben oui, ça fait 2 mois et demi.
Vox Pop télévisuel en ce moment, là, où ils vont intercepter des gens à tank à essence, là, puis qui disent « Êtes-vous déçu que Bonardel soit écarté? C'est du bonbon en ce moment. » Tout le monde semble être vraiment à bout de ça.
Mais je me demande pourquoi le premier ministre n'a pas fait son remaniement lundi.
Il aurait dû le faire lundi, en effet, parce que là, c'est 2 jours qui traînent de trop. En passant, Christian qui nous écrit, le gaz vient de monter 12 cents à Lévis. Donc,
parlant de pomper ça.
Exactement. De quoi faire pomper nos auditeurs. Coup de théâtre ce matin, c'est la presse qui l'a sorti à 5 heures. Et je lis textuellement ce que François Bonnardel également écrit sur son compte X à peu près une heure plus tard. Dans les derniers jours, le premier ministre m'a indiqué sa volonté de rajeunir son équipe. Évidemment, je suis extrêmement déçu de la tournure des événements. J'étais prêt à continuer de servir les Québécois et les Québécoises au sein du Conseil des ministres et j'avais clairement indiqué mon intention de me représenter en 2026. Monsieur Bonnardel a souligné qu'il a la ferme intention de continuer à représenter les citoyens de Granby, donc au moins pas d'élection complémentaire jusqu'à la fin de son mandat, mais il n'a pas précisé s'il compte toujours être sur les rangs aux prochaines élections. Antonine, j'ai pas le choix de commencer avec cette question-là. Est-ce l'agneau sacrifié de la commission Galant?
C'est ça le message qu'on reçoit là, aujourd'hui. C'est que moi, ça fait plusieurs semaines que, quand on spécule sur le Conseil des ministres, je dis, M. Legault, il peut quasiment pas tasser Geneviève Guilbeault et François Bonnardel.
Et j'étais tellement d'accord avec toi parce que ton argumentaire était « on vient de donner conclusion de la commission Galant ».
Mais c'est ça. Puis il y a un rapport qui va sortir à la fin de l'automne qui va expliquer un peu qu'est-ce que Maître Galant a compris de tout ça, qui a fauté, dans le fond, c'est qui, là, qui est à tenir responsable dans toute cette histoire-là. Et c'est comme si le couperet tombait déjà. et que du côté du PM, ben c'est François Bonnardel qui en paye le prix. Bon, du côté du cabinet du PM, on nous dit que c'était déjà dans les cartons avant que M. Bonnardel passe à la commission, que c'est vraiment pas une question de commission Galant, c'est une question de renouvellement au sein du Conseil des ministres et que c'est pas possible de monter un Conseil des ministres avec du sang nouveau si on garde tout le monde. Donc, il va y avoir des ministres déçus, des ministres qui sont tassés, qui sont exclus. Bon, on avait vu cette semaine André Lamontagne et Suzanne Roy dire « Nous, on est correct avec ça. On ne se représente pas à la prochaine élection. Donc, on laisse notre siège au Conseil des ministres à quelqu'un d'autre. »
C'était là la différence. C'était le fait qu'André Lamontagne et Suzanne Roy ont décidé de ne pas se représenter. Donc, tu dis « OK, c'est facile, je rajeunis. » Mais là, Bonnardel avait dit « Je me représente. » Un grand ténor de l'ADQ.
Des premières heures là, de la CAQ. Là, il était là à l'ADQ avant, effectivement. Toujours été très loyal aussi, un bon soldat.
Ben oui, un bon soldat qui a tenté de relever du mieux qu'il a pu les missions qu'on lui a données. Alors là, c'est vraiment de venir frapper directement dans ta garde rapprochée. C'est ce qui m'étonne aussi.
Bien, faire un conseil des ministres, c'est un casse-tête. C'est très difficile. Tu as beaucoup d'impératifs à en prendre en considération. Représentation régionale, faut en plus, là, on est en fin de mandat du côté de la CAQ. Tu veux réduire un peu ton conseil des ministres. Surtout quand tu veux dire aux gens, bien là, on va faire des compressions, on contrôle les dépenses. Bien, il faut que tu montes l'exemple aussi en réduisant la taille de ce que tu contrôles, notamment le Conseil des ministres. Dans les derniers mois, il semble que M. Bonnardel, moi, ce que j'entends, c'est qu'il était moins catégorique qu'il allait se présenter en 2026. Cela dit, est-ce que vraiment tous les gens qui vont être nommés demain au Conseil des ministres vont vraiment se représenter en 2026? Laissez-moi en douter.
Laissez-moi douter parce que, tiens, gardons ça. Et là, avant qu'on passe justement au sondage, je veux juste te poser cette question-là. T'es François Bonnardel sacrifié, mais là, jusqu'à date, on n'entend pas de Jonathan Julien sacrifié qui n'a vraiment pas fait un bon travail en capitale nationale. On comprend qu'il ne sera plus ministre de capitale nationale, mais va-t-il garder son portefeuille aux infrastructures?
Bien, en fait, on comprend parce qu'il y a des bruits qui courent, il y a des rumeurs, mais en fait, on ne le sait pas. Hein. Mm-hmm. Je ne prendrai pas pour acquis que Jonathan Julien est tassé. Mais on va voir évidemment ça demain après-midi, 14h.
Tu le mettrais où, toi? Tu le conserverais ou tu le tasserais?
Bien, encore une fois, c'est vraiment un casse-tête. Fait que là, tu prends tout ce que tu as comme siège à distribuer. Puis des fois, le jeu des dominos puis du casse-tête va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être escapés parce que tu dis, bon, ben il me reste une place, il faut que je nomme une autre personne dans la région, etc. Tu dois prendre en considération aussi les susceptibilités. Ils vont dire qu'ils ne les prennent pas en considération, mais ils les prennent en considération. C'est sûr que si tu as quelqu'un que tu es persuadé qui va... claquer la porte si tu le mets dehors du Conseil des ministres, ben c'est différent que quelqu'un qui va être bon joueur, par exemple.
Je te posais la question pour Jonathan Julien en parenthèse parce que c'est quand même un ministre maintenant qui est passé par le municipal. C'est un gars qui connaît la région, qui n'a pas impressionné, par exemple, dans son dernier poste, mais qui a été un cheval de bataille pour François Legault. Fait que je me dis, il ne veut pas nécessairement punir ce gars-là. C'est impossible. Il en a pris des balles. Il a resté discret.
Moi, je pense que l'impossible est possible cette semaine. On verra qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Julien. Ce qu'on entend aussi, c'est par exemple, une France-Hélène Duranceau.
Oui, je voulais te parler de France-Hélène Duranceau parce que pour moi, elle a fait face à énormément de critiques et avec raison parce qu'elle a très mal communiqué.
Plusieurs gaffes
et là,
majeures.
On se souvient aussi de l'épopée des souliers à 1000$ là, quand on vient présenter du logement social. Mais dans la dernière année, elle a livré la marchandise en termes de création de logements. Là. Et là, elle n'a pas réglé la crise du logement. Là, ça va prendre des années avant de la régler.
T'as 100% raison. Et c'est vraiment l'opinion qu'a le premier ministre de France-Hélène Duranceau, ministre de l'Habitation, c'est qu'elle livre la marchandise. Elle trouve des solutions qui sont innovantes, qui sont différentes. Il y a beaucoup de partenaires qui aiment travailler avec elle, partenaires municipaux, mais partenaires aussi promoteurs qui font des projets. C'est sûr que le Frappru, là, qui milite pour les locataires, ils vont jamais dire qu'elle est bonne. Puis en plus, elle leur a donné plusieurs occasions là, de porter flanc à la critique, vu ses déclarations pour le moins maladroites qu'elle a tenues depuis qu'elle est en poste. Mais on peut s'attendre à ce qu'une France-Hélène Duranceau, même s'il y a eu beaucoup de controverses, se retrouve encore autour de la table du Conseil des ministres. Parce qu'il faut le rappeler, nous, là, les médias, là, puis le monde en général, là, c'est sûr qu'on va avoir les yeux rivés vers qui est exclu, qui est fâché. On a tendance à accrocher plus sur le croustillant.
Je les
négatif.
Veux en entrevue.
Ben oui, puis on c'est sûr, OK? Mais à la fin de la journée, le premier ministre, lui, ce qu'il veut monter, c'est une équipe autour de la table. Ouais. Donc, qui est assis là, puis c'est qui les compétences de chacun? Et est-ce que ça va lui permettre, ben, premièrement, de se sortir de la chenoute, parce qu'on va en parler dans deux secondes avec le sondage, ça va pas très bien, mais aussi d'être capable de livrer la marchandise cette année. France-Hélène Duranceau, Christian Dubé, Bernard Drinville, c'est des ministres qui, même si des fois, bien, M. Dubé, je le mets à part parce qu'il est toujours très populaire, mais sont dans les controverses, ils peuvent être dénoncés par les groupes de leur écosystème, là, dans leur dossier, mais à la fin de la journée, ils livrent la marchandise. Un Simon-Jeanette Barrette aussi, c'est un ministre qui livre la marchandise, qui apporte des projets, qui fait des projets de loi. Donc, ça va être un impératif qui va être important pour le premier ministre dans ses décisions, pas seulement qui va avoir de la peine si on les sort du Conseil des ministres.
Jean-François Roberge, là, également, qui fait un excellent travail à l'immigration. On saute au sondage, justement. Ce fameux sondage Palace qui place le PQ en avance à 38 % les libéraux à 27 % Là, vous dites, « Hey, Jeff, tu vas dire la CAQ en troisième comme d'habitude. » Et non, c'est le Parti conservateur du Québec à 15 % malgré sa défaite d'Arthabasca. Et la CAQ est à 11 % Québec solidaire est pratiquement effacé de la carte à 8 % Mais la CAQ à 11 % quand tu as commencé à 90 députés,
incroyable.
Il y a de ça à peine 3 ans c'est une débandade jamais vue, Antonine.
C'est vraiment une chute violente. La CAQ, il faut le dire, c'est un parti qui a apparu avec François Legault, un nouveau parti qui n'avait pas de base militante, qui est très fort sur le marketing politique, etc. Puis quand ça a commencé à descendre, je parlais avec d'autres passionnés de politique, puis quelqu'un qui me faisait remarquer, on ne sait pas c'est quoi le plancher de la CAQ. On sait, par exemple, le Parti libéral, là, peu importe ce qui se passe, là, vous pourriez mettre une boîte en carton à la place du chef puis pas faire campagne. Ils vont aller chercher une vingtaine de comtés. Pareil, il y a une base.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un 18 % 20 comtés, le Parti
Absolument.
Libéral.
Le PQ, il y a des gens, là, jusqu'à leur lit de mort, ils vont être péquistes puis vouloir le pays. Puis il y a un rêve qui est plus grand que juste acquérir le pouvoir. Fait, il va avoir toujours une base, même quand ça allait très, très mal au PQ. Il y a toujours une base qui est solide. Mais la CAQ, c'est quoi la base? C'est ça qui est plus difficile. C'est plus articulé autour d'une personne. Il y a eu beaucoup de compromis, des gens très différents qui se sont joints pour, à un moment donné, mettre fin au règne des libéraux. C'était un peu ça aussi. Hein? C'était après 15 années de règne libéral, il y a pas mal de gens qui se sont dit faut essayer autre chose. Et c'est là que la CAQ est apparue avec ses positionnements plus nationalistes, mais sans le boulet du référendum.
Bien, la CAQ n'a pas de base, t'sais, sauf erreur. C'est un rassemblement d'indépendantistes frustrés. De fédéralistes
plus
déçus,
nationalistes,
fédéralistes déçus du Parti libéral, puis de gens un petit peu plus à droite sur l'échiquier politique
les
avec l'ADQ. Avec l'ADQ. Mais là, le Parti conservateur est là pour les gens à droite. Les libéraux, bon, on parlera de Pablo Rodriguez dans 2 minutes parce que j'y crois pas partout, mais quand même, il y a un petit vent de renouveau qui souffle. Et le PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon passe la gratte. Donc, qui est vraiment un caquiste? T'sais, moi, j'ai posé cette question-là dans mon entourage. Qui est un caquiste? Tout le monde est un péquiste. Tout le monde est un libéral. Tout le monde est un conservateur. Mais quand je dis tout le monde, ces trois choix-là, je les entends. Mais caquiste, je ne l'entends jamais.
C'est plus difficile. Et là, vraiment, la CAQ vit une asphyxie présentement. Elle se fait manger son lunch de tous les côtés. Le lunch de l'ADQ par le Parti conservateur. Les nationalistes retournent à la maison du côté du PQ. Puis les fédéralistes plus nationalistes sont prêts à faire des compromis pour retourner aussi à la maison au Parti libéral, même si c'est Pablo Rodriguez qui a gagné l'élection. Honnêtement, des fédéralistes plus nationalistes, par exemple, qui veulent défendre la langue française, etc., qui sont plus proches des régions, c'est sûr, vont peut-être moins trouver écho auprès d'un Pablo Rodriguez. Mais le Parti libéral qui va vouloir aller rechercher son créneau économique aussi, parce que c'est ça aussi. M. Legault, c'était le créneau économie. Et avec tout ce qui s'est passé, les projets économiques qui ont fait patate, là, notamment Nordvolt, bien là, évidemment, les libéraux plus de chambre de commerce, que j'appelle, risque de retourner aussi à la maison. Donc, il ne reste pas... tout le monde nous mange un petit bout de la CAQ et il ne reste pas grand-chose. Il y a juste Québec solidaire qui fait pire en ce moment pour de toutes autres différentes raisons. PQ qui demeure extrêmement fort. Hein, puis, ils se maintiennent dans les sondages sur une longue période. Parce qu'on disait qu'ils sont montés trop vite, trop tôt, le PQ.
Oui, je suis d'accord avec ça. T'es-tu surprise? Moi, ça me surprend. Je pensais qu'il y aurait un petit ressac, qu'on retournerait vers le 29-30 %, mais là, on est encore à 38.
Ça se maintient. Est-ce que ça va se maintenir encore un an? C'est la question. Puis d'ailleurs, parlons du Parti libéral un peu. Nouveau chef, très discret. On l'a vu en conférence de presse la semaine passée. Il y a un caucus cette semaine. Bon, on le préserve encore, Pablo Rodriguez. Et c'est Marois Risky qui est chef parlementaire, parce que Pablo Rodriguez n'est pas député. Donc, c'est leur député vedette efficace, qui pose des questions tranchantes, qui a des lignes de com' toujours assassines. Très, très efficace, Marois Risky. C'est elle qui va poser les questions au premier ministre quand la session parlementaire va recommencer. Elle vient d'ailleurs de sortir un documentaire sur la réussite scolaire chez les garçons. Mm-hmm. Elle est au top de sa popularité, cette femme-là. Vraiment extraordinaire. Donc, on va continuer de préserver un peu Pablo Rodriguez, essayer de marquer des points avec Marois Risky. Puis éventuellement, il va falloir que Pablo Rodriguez revienne vraiment comme le leader des troupes. Ce qu'ils vont essayer de faire, les libéraux, en tout cas, moi, c'est ce que je ferai à leur place, c'est de créer un momentum plus proche de l'élection. Donc, pour l'instant, on fait monter la sauce doucement. On n'essaye pas, on n'est pas en train de tirer sur tout ce qui bouge là, en ce moment du côté des libéraux. On est plutôt discret.
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce un couteau à double tranchant, Marois Risky? Je m'explique. C'est parce que la sauce peut pogner pas à peu près, là. Elle peut te clencher, François Legault, pardonne-moi mon langage, à l'Assemblée nationale demain matin. Puis là, paf, on va passer de 27 % à 34 %. Mais quand on va arriver dans un débat des chefs avec Pablo Rodriguez, oh my God, on repart 5-6 %.
Peut-être. Il y a le temps, ça donne le temps à Pablo Rodriguez de se faire un peu les dents. Parce que honnêtement, il n'est pas encore de niveau. On l'a vu. En point de presse, on l'a vu dans les débats de la course à la chefferie du Parti libéral. On va se dire la vérité, c'est plus facile à Ottawa qu'à Québec.
Oui.
Tu sais, t'es moins loin, t'es plus loin, pardon, des préoccupations des gens au quotidien. Les journalistes ont moins accès aux ministres. En chambre, là, si vous écoutez, je le sais que ça vous tentera pas bien, mais écoutez une période de questions à la Chambre des communes une fois dans votre vie pour voir à quel point il n'y a pas de réponse aux questions. Si vous trouvez qu'à l'Assemblée nationale, on répond pas, regardez à la Chambre des communes d'Ottawa, c'est terrible. Chaque question, c'est comme oui ou non, allez-vous déposer un plan? Puis la réponse, c'est nous sommes toujours aussi investis à servir les Canadiennes et les
Pourquoi
Canadiens.
Pourquoi on ne brasse pas plus la cage? Pourquoi on n'a pas changé un peu les choses par rapport au respect, aux contribuables, aux voteurs,
Ça a toujours été comme ça à Ottawa. Puis ouais. À Québec, on a une des meutes journalistiques les plus voraces, les plus... Ils n'en laissent pas passer. Ils sont très solidaires les uns avec les autres.
Mais après trois fois, quand ils posent des questions pour l'avoir vécu pendant 10 ans, on arrête aussi parce que là, c'est comme un harcèlement, mais des fois, ils ne vont pas répondre. Pourquoi est-ce que du côté de Ottawa, on change pas un peu la donne, on se permet pas plus un peu, on a peur d'être évincé?
Aucune idée. Honnêtement, je pense que c'est juste une question de culture de travail qui est un peu différente. Si on regarde dans différents parlements à travers le monde, Québec, là, moi, j'ai rarement vu un endroit où c'est plus tough, avec des journalistes qui font vraiment ultra bien leur travail puis des oppositions qui ne lâchent jamais le morceau. Puis quand on répond pas, il y a un coup politique à ça qui n'est pas toujours présent ailleurs dans le monde. On a des politiciens qui sont quand même accessibles aussi. Hein.
Avant de montrer des politiciens avec une énergie débordante, c'est-à-dire les politiciens français, parce qu'il faut parler de ce qui se passe au Parlement français, je te fais entendre Pablo Rodriguez à propos de Pierre Dufour, ce député caquiste de l'Abitibi qui s'est fait dire « Dehors, tu seras pas dans le Conseil des ministres pour te parler contre nous. »
Un maudit bon gars. Je l'ai dit, c'est une discussion qui va rester entre nous.
Non, mais
comme de nombreux. Monsieur Dufour, attendez une seconde. Monsieur Dufour vient de vivre un moment qui est difficile. De la part, un geste, à mon avis, injuste de la part de son chef. Et là, je pense qu'il y a du temps pour... Il va prendre du temps pour lui-même. Moi, je respecte ça.
C'est un maudit bon gars. Moi, j'ai entendu sa maman dire ça de trois personnes. Stevens Melançon, Jean Gagnon, puis Hugo Langlois. Les trois sont rendus dans son équipe.
Exact.
Ça veut-tu dire que Pierre Dufour fait le switch aux libéraux?
Écoute, j'écoutais Pierre Dufour en entrevue quand il a été exclu de la CAQ, puis il y a un journaliste qui a posé la question « Est-ce que vous pourriez vous présenter pour le PQ? » Puis il a dit « personne ne me l'a demandé. Il faudrait d'abord qu'il me le demande. »
OK, mais là, il est souverainiste ou fédéraliste?
Mais c'est ça, là. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas magasiner au PQ puis au PLQ. Là, ça marche pas, là.
C'est comme si tu magasines au Parti conservateur puis à Québec solidaire, là.
Il y a quoi qui marche pas, là, tu sais, là-dedans. Je sais pas si Pierre Dufour pourrait se présenter pour un autre parti, parce que honnêtement, je sais pas c'est quoi ses valeurs profondes. C'est encore une fois, on revient à la nature de la CAQ. Hein. Mm-hmm. Il y a tellement de gens différents. Par contre, ça me rappelle tellement des souvenirs parce que à un moment donné, sous le gouvernement de Philippe Couillard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M. Poetti avait été exclu
oui,
du caucus.
Oui, c'est vrai.
Hey, là, on le vantait. Là. Moi, j'étais au PQ à l'époque. Là, puis là, on disait « M. Poetti, un homme droit qui a toujours dit les vraies choses. Hey, » Dégle, là, on avait tous les compliments du monde maintenant qu'il avait été exclu du caucus.
Alors que vous aviez dû le clencher en chambre, ben, pas oui. Juste qu'une fois.
Ben oui, c'est sûr.
J'adore ça. Pour rappel, on est dans le caucus Iaccarini, c'est du lundi au jeudi dans On en jase de midi à 12h30 qu'on a le bonheur de parler avec Antonine Iaccarini, cette spécialiste en politique. Antonine, je te fais écouter un montage qui résume très bien ce qui s'est passé au Parlement français hier et on en parle par la suite.
Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Où notre pronostic vital est engagé.
Dans la foulée, c'était au tour des présidents de groupe de l'opposition de réagir, comme Boris Vallaud du PS.
Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous. Nous n'avons eu que désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous faire confiance. Les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale. Nos choix ne sont pas les vôtres.
Laurent Wauquiez, DLR.
Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté La France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine.
Là, qu'est-ce qui se passe en France, Antonine? Parce que la gauche socialiste est contre le Parlement, la droite est contre le Parlement. Qu'est-ce qui fait pas de bien, ce Parlement-là?
Tout le monde est fâché.
Ben, c'est
personne
ça,
n'est
la
content.
Droite, la gauche, on essaie de se placer au centre, ça marche pas. Comment on va dénouer l'impasse? Parce qu'on s'entend, c'est très problématique ce qui arrive présentement en France.
Bon, premièrement, ça va être difficile de dénouer l'impasse. Ça fait plusieurs choses que Emmanuel Macron, président français, essaie et ça ne fonctionne pas. Et il a même déclenché évidemment des législatives en 2024, donc des élections pour élire les députés. Et ça n'a pas permis d'avoir un Parlement, qui, en fait une Assemblée nationale, qui soit gérable. Donc c'est très, très morcelé en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est que non seulement les partis sont morcelés, donc si on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on va voir que chaque groupe politique a un nombre de députés, mais personne ne domine. Donc évidemment, déjà toujours un peu compliqué. Après, on peut créer des coalitions, sauf que le deuxième phénomène qu'on voit à part le morcellement, ben c'est la polarisation. On a une montée des partis plus extrêmes sur le spectre. Donc, on parle d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc, notamment France Insoumise, M. Mélenchon. Et ça fait en sorte que c'est très, très difficile d'aller chercher des compromis. Puis, si on regarde la tarte là, de l'Assemblée nationale, le parti du président Ensemble, qui était précédemment En Marche, on a 91 députés. Si on regarde du côté de la gauche socialiste et Nouveau Front populaire, ben on a un autre morceau qui est pas mal égal à celui qui est composé par les Républicains et le Rassemblement national, donc la droite. Donc, c'est vraiment très également réparti entre la droite, la gauche et le centre, là, pour résumer. Donc, c'est extrêmement difficile de gérer. C'est le président qui nomme un premier ministre, qui doit monter une coalition gouvernementale et essayer de passer des lois dans cette Assemblée nationale. Ça fait en sorte que l'Assemblée nationale était très, très peu productive. Donc, on a beaucoup de mal à passer les réformes qui sont attendues. Et ce sur quoi ça achoppe énormément, c'est la question des réformes nécessaires pour devenir un État, la France, qui soit plus efficace.
Hein? Ouais,
on le sent scléroser, cet État-là.
Parce que où sont les dangers, justement, pour la France d'avoir cette Assemblée nationale-là complètement arrêté?
C'est l'inertie.
Oui, et puis là, on s'en va vers des déficits records aussi, je ne me trompe pas.
Déficits records, il y a eu toutes sortes de réformes qu'il fallait faire pour que la France là, soit plus fonctionnelle, plus compétitive aussi avec le reste du monde. On dit souvent que la France, c'est un pays qui est souvent embourbé dans ses processus, dans l'administration, dans des politiques qui ont été difficiles à réformer puis à moderniser au fil du temps. Et dans le deuxième quinquennat, donc le mandat d'Emmanuel Macron, c'était vraiment la volonté là, de faire ces réformes importantes, réduire les dépenses aussi. Il y a eu toute la question, évidemment, qui s'est beaucoup brassée des régimes de retraite. En France, ça a été une saga incroyable. Et là, ben, on a cette Assemblée nationale qui n'est pas capable de fonctionner. Donc, c'est l'inertie. Et l'inertie, ça a un coût aussi. Ça a un résultat. Et c'est ça un peu que M. Bayrou disait dans son discours. Il disait, vous pouvez me faire tomber si vous voulez, mais la réalité, elle ne va pas changer. Donc, il faut continuer le travail. Si ce n'est pas moi, ben, il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse de toute façon.
super complexe au niveau économique. C'est rare qu'on en parle jusqu'ici de l'économie de la France, à part depuis l'instauration des tarifs avec Donald Trump. Par contre, le côté social, c'est épouvantable de voir comment ça peut virer en ce moment. L'alimentation de certains groupuscules, avec la divergence complète entre les deux groupes extrêmes aussi sur les visions sociales de la France. Puis, faut savoir, l'Union européenne, c'est un tout. Hein? Puis, la France a souvent l'idée un peu sur cette facette-là. À travers les années, on a eu beaucoup de complications, des grosses manifestations un peu partout. Ça a monopolisé puis ça a même paralysé la France pendant de nombreux mois. C'est encore le cas. On en parle un peu moins ici, mais c'est ça qui est le poumon en ce moment de la France. Tout ce qui est mesures sociales, tout ce qui est entente là-dedans. Où est-ce qu'on va redéfinir le pays? Puis il n'y a pas de définition. Fait qu'avec ce que tu nous amènes aussi comme information en ce moment, ça complique énormément les choses parce que les mesures sociales ont un impact sur l'économie. Puis il n'y a pas de vision. En fait, personne n'est capable de se brancher sur où est-ce qu'on s'en va en tant que peuple français. Ça a des impacts directs sur notre communauté aussi québécoise parce que c'était vu comme un de nos alliés potentiels pour la suite des choses dans les prochaines années parce que ça s'est affaibli un peu avec les États-Unis.
Bien, c'est ça. T'sais, pendant qu'on vit cette paralysie-là, alors qu'il y a une crise à l'international aussi, mais c'est sûr que ça limite beaucoup l'action du président. Le président français peut faire un certain nombre de choses, mais c'est vraiment l'Assemblée nationale, finalement, qui vote les lois. C'est le pouvoir législatif. Là, on a entendu une Marine Le Pen cette semaine faire un appel à des nouvelles élections, mais c'est pas parce qu'on fait une élection que le résultat va être complètement différent.
Si on se retrouve avec le même résultat, ça ne sera pas mieux.
C'est ce qui s'est passé en 2024. Puis pourquoi Emmanuel Macron avait déclenché des élections en 2024 législatives? C'était parce qu'il voyait cette montée de l'extrême droite et qu'il voulait battre le fer pendant qu'il était chaud et se dépêcher d'essayer de monter une Assemblée nationale où la droite serait limitée là, dans son action. Donc, c'est pour ça que Marine Le Pen maintenant redemande cette élection-là. Ils sentent qu'ils ont en quelque sorte un momentum parce que les idées en ce moment du Rassemblement national trouve écho, notamment chez les travailleurs français. Il y a une fatigue et j'en parle régulièrement dans nos discussions, mais j'ai envie de dire une colère aussi chez les travailleurs, chez le travailleur ordinaire, que les partis de droite et d'extrême droite réussissent à bien exploiter, à apporter des solutions. Alors que des fois, la gauche a un petit peu de difficulté à, reconnaître que les préoccupations de ces gens-là sont valides à la base. Il y a beaucoup des fois de jugement, de se mettre au-dessus du peuple. Je pense aussi aux enjeux d'immigration en France, très, très important, les enjeux du vivre ensemble également. Bien, l'extrême droite en France le trouve vraiment écho auprès de ces électeurs-là. Donc, Marine Le Pen qui voudrait qu'il y ait des élections le plus rapidement possible. Je ne pense pas que ça va régler le problème.
Non.
On verra.
Antonine Iacarini, merci beaucoup. C'était le caucus Iacarini du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. C'est de midi à midi 30 environ. Demain, on va se parler de ce remaniement ministériel. Je pense que rendu à midi, on va savoir pas mal ça va être qui.
On devrait tout savoir, le rendu là.
Exactement. Donc, à demain, Antonine. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Courte pause. Et par la suite, deux choses au tableau. Pascal Cévé qui nous a préparé un très bon dossier sur... Dominique Laroche, cet ex-skieur acrobatique reconnu coupable d'agression sexuelle qui a tenté de mettre fin à ses jours hier. Et également, on aura Martin Tremblay, DG du Centre Vidéotron, pour nous parler des 10 ans de cette belle bâtisse à Québec. Restez des nôtres, vous êtes à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.